Craving a real coffee? Get it sorted from your local OTR barista. Premium hot or iced coffee with dairy or plant-based milk at no extra charge. And every fifth coffee's free when you order in the OTR app. T's and C's apply. OTR. Making life easy.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre remontée dans le temps à travers les premiers ministres les plus emblématiques de l'histoire australienne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à celui qui est resté le plus longtemps à la tête du gouvernement. C'est aussi un véritable totem pour la droite australienne. Il s'agit de Robert Menzies. Et comme d'habitude, pour en parler, nous retrouvons l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory.
Alors, Robert Menzies, il a été Premier ministre quelques années avant l'homme dont on a parlé dans le précédent épisode, Gough Whitlam. Il a en fait été deux fois Premier ministre, d'abord entre 1939 et 1941, et puis surtout pendant une très longue période de 1949 à 1966. Et je le disais, cet homme, c'est vraiment la figure historique de la droite australienne, une véritable référence. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le général de Gaulle australien ?
Oui et non. Non, parce que Menzies, c'est quand même quelqu'un qui a dit que Hitler serait, on s'en souviendrait comme un des grands hommes du XXe siècle. Je ne suis pas sûr, en fait, je suis certain que de Gaulle n'aurait pas partagé ce point de vue. Point de vue militaire non plus, c'est quelqu'un qui n'a pas vu la guerre, contrairement au général de Gaulle. Mais là où ça fonctionne, c'est qu'effectivement, c'est la grande figure de l'après-guerre australien, comme le général de Gaulle l'a été en France. Donc la grande figure de droite, avec un règne prolongé et quasiment incontesté, entre 49 et 66 pour Robert Menzies. Donc c'est une métaphore qui fonctionne sur un certain plan et moins sur d'autres, mais enfin elle vaut quand même le coup d'être mobilisée.
Très bien. Alors, on va reprendre un peu tout ça chronologiquement. Donc, Robert Menzies, il est né en 1894. Il grandit d'abord dans une petite ville de l'État du Victoria, avant de déménager avec ses parents à Melbourne. Et évidemment, là, on parle de ses jeunes années, mais plus tard, il va donc devenir Premier ministre. Et ce sera en fait le premier à diriger l'Australie, dont les deux parents sont nés en Australie, justement. Ce sont en fait ses grands-parents qui, les premiers, ont immigré depuis l'Écosse. Ils étaient en fait venus parce qu'à cette époque-là, il y avait la ruée vers l'or dans l'État du Victoria. Alors, j'avance un petit peu rapidement. C'est un élève très brillant. À l'école, il s'en sort particulièrement bien et puis il va ensuite s'orienter vers des études de droit et devenir avocat. Et à la même période, comme souvent pour les gens, c'est à ce moment-là qu'il commence à se politiser. Et ce que je trouvais intéressant dans ses premiers engagements, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes, notamment celui autour de Billy Hughes, c'est que personnellement, il milite pour la mise en place d'une conscription obligatoire pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on en a parlé, vous nous redonnerez quelques détails. Mais lui, Robert Menzies, en revanche, il va pas s'engager pour aller combattre dans les tranchées. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais, en fait.
Alors, oui et non, et je vais y revenir. Parce qu'il y a une histoire familiale intéressante sur cette question. Il en a pâti pendant le plus clair de sa carrière. Vous avez rappelé que c'était un élève brillant, et ça c'est très important. Vous savez, le dernier épisode qu'on a fait pour le 11 novembre, qui correspond à la chute du gouvernement Whitlam, qui était un premier ministre de gauche, on avait un premier ministre de gauche avec une enfance dorée, des parents des classes supérieures de l'élite en réalité, et là on a un premier ministre de droite avec des parents aux origines sociales qui sont classe modeste, petite classe moyenne. Donc c'est intéressant parce qu'il y a ce revirement. Il n'a pas grandi dans la pauvreté, hein, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, il ne vient pas de la haute ou de la bonne société, loin de là. Il grandit dans un espace rural, loin de tout, loin des savoirs. Sa première école, c'est une école avec une classe dedans quand même. Donc, il est vraiment loin. Puis peu à peu pendant sa scolarité, à mesure qu'il avance dans sa scolarité, il se rapproche des îles et puis commence l'université à Melbourne. Mais entre-temps, c'est un petit garçon qui continue d'avoir des prix parce qu'il est très très doué à l'école. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et donc, il peut rejoindre les rangs de l'université parce que c'est un étudiant excellent. Il n'était pas nécessairement prédestiné à aller à l'université. Il choisit le droit, qui est une discipline à l'époque assez noble et assez difficile. Et il est très très doué puisqu'il deviendra ministre de la Justice, donc on s'en doute plutôt bon. Entre-temps, il est avocat, comme vous l'avez souligné. Alors, là où il commence à se politiser, effectivement, c'est pendant ces jeunes années. Et on se souvient que pendant la Première Guerre mondiale, les Australiens sont volontaires. Ils en sont très fiers, bon, enfin, c'est pas les seuls, hein, les Indiens l'étaient. Les Irlandais l'étaient aussi, mais la plupart des pays européens, les hommes payaient la taxe du sang et c'était la conscription obligatoire, comme en Allemagne, en France, etc. Et donc, à un moment donné, le Premier ministre australien se rend bien compte, en fait, que l'Australie n'envoie pas suffisamment d'hommes. Contrairement à ce que les Australiens disaient à l'époque et disent aujourd'hui, qu'ils en envoyaient plus en proportion. Non, c'est n'importe quoi, c'est du mythe, c'est de la légende, mais c'est pas de l'histoire. En réalité, vous avez plus de 400 000 Australiens qui vont se battre à l'étranger, mais il y en a encore 800 000 qui, à la maison, ont l'âge et les conditions pour aller se battre, mais qui n'y vont pas. Et donc, le gouvernement de l'époque, du Premier ministre Billy Hughes, se dit, bah, on va faire un référendum et essayer d'imposer la conscription, parce que je ne peux pas le faire en droit, il faut que le peuple soit d'accord. Premier référendum défait, deuxième référendum défait également. Mais entre-temps, vous avez tout un tas de gens, comme Robert Menzies, qui pensent qu'effectivement, que la conscription pourrait être une solution pour faire avancer la guerre et surtout pour la gagner. Et je vais revenir sur ce point-là. Lui, en tant qu'étudiant à l'université, il est un peu protégé, parce que l'université, à l'époque, il y a quand même très peu de personnes qui y accèdent, et il vaut mieux protéger la future classe dirigeante du pays quand il va falloir le reconstruire. Cependant, il reçoit un entraînement militaire, puisqu'il fait partie de la milice, enfin, c'était milice universitaire, et donc il a accès aux armes, si vous voulez. Et ça, on lui a reproché toute sa vie politique. Surtout, enfin, vous imaginez, vous faites partie d'une génération où la guerre est omniprésente. C'est comme si, effectivement, le général de Gaulle n'avait pas fait ses classes, quoi. Enfin, impensable puisqu'il y avait la conscription, mais vous imaginez qu'être homme politique en France dans les années 20, 30, 40, 50, 60, 70, sans avoir fait soit la première, soit la deuxième guerre mondiale, il n'avait quasiment aucune chance. Et donc, ça lui reprochait. Ça lui reprochait comme quelqu'un qui aurait évité d'aller se battre, donc bien évidemment tous les enjeux de la masculinité, etc. Et en réalité, alors c'est quelque chose qu'il a toujours essayé, pas de cacher, mais de parce qu'il ça lui était souvent reproché pendant les campagnes électorales, ses deux frères, eux, sont partis se battre. Et donc, si vous voulez, quand vous avez trois jeunes hommes dans une famille que le père est plutôt en mauvaise santé, la famille Menzies a considéré que son devoir patriotique, en envoyant deux garçons sur trois, était quand même bien accompli. Et que par ailleurs, il était le plus doué des trois académiquement et que c'est lui qui avait le plus de chances de pouvoir construire une carrière et de soutenir ses parents vieillissants. Ça, il l'a jamais vraiment expliqué publiquement. C'est son frère qui l'a dit après sa mort. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ne sera jamais, mais enfin, et comment dirais-je, c'est tout à fait plausible. Tout à fait plausible, puisque de nombreuses familles faisaient ces choix-là, parce qu'un tel devait rester à la ferme, ou un tel devait gagner un salaire pour s'occuper de ses vieux parents, à une époque où il n'y avait pas de retraite comme on la comprend aujourd'hui. Donc effectivement, c'est quand vous avez dit faites ce que je dis, pas ce que je fais, peut-être, mais j'y vois plutôt un contexte social où en fait bon il a tiré la bonne carte mais en réalité il en a quand même morflé parce qu'on lui a reproché pendant assez longtemps.
Oui, et d'ailleurs, vous le disiez que dans ces années-là, très marquées justement par des conflits terribles, avoir ou n'avoir pas fait la guerre, ça pouvait vraiment devenir une arme politique. Et à vrai dire, je crois que ça l'est toujours un petit peu. Enfin, j'ai vu il y a seulement quelques jours Jordan Bardella, le Rassemblement national en France, qui propose la remise en place du service militaire. Que par ailleurs, il a dit que s'il devait diriger le gouvernement de la France, il nommerait Éric Ciotti au ministère des Armées. Or, Éric Ciotti s'est fait réformer par coup de fil et amitié bien placée. Et ça l'a mis très très mal, y compris vis-à-vis de Jordan Bardella, qui est son allié politique, qui a dit, bon, bah, dans ce cas, on le mettra peut-être plutôt à l'intérieur. Enfin, bref, parenthèse fermée. Revenons sur Robert Menzies. Donc, il ne participe pas à la guerre, mais ses deux frères partent au front. Et puis, pour ce qui est de sa carrière politique, c'est vraiment vers la fin des années 20 que ça commence à démarrer. Alors, il est, politiquement parlant, très clairement conservateur, vraiment un défenseur fervent de la libre entreprise sans entrave. Il commence, eh bien, d'abord au niveau local dans l'État du Victoria, mais il est élu au niveau fédéral à partir de 1934. Élu dans une circonscription très huppée de Melbourne, de Couillon, qui d'ailleurs, je crois, jusqu'en 2022 a toujours été une circonscription conservatrice. Elle a fini par passer sous l'escarcelle de l'une de ses élues indépendantes. Bref, il est élu en 1934 et tout de suite, il est nommé au gouvernement, ministre de la Justice, si je ne dis pas de bêtises, et à ce titre, en tant que membre du gouvernement, il est amené à visiter l'Allemagne nazie qui est passée sous contrôle d'Adolf Hitler un an plus tôt en 1933. Et j'ai vu, vous en avez fait part effectivement d'une certaine forme d'admiration pour Adolf Hitler. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que d'un côté, il a eu un certain nombre de déclarations à cette époque pour montrer qu'il était vraiment très fermement opposé à toute forme d'antisémitisme. Et donc, effectivement, bah lui, il trouve que l'Allemagne nazie, c'est quand même formidable, et il dit d'Adolf Hitler en 1939, donc on n'a plus, on va dire, les doutes peut-être du début, que ce sera l'un des grands hommes du XXe siècle. Comment on peut combiner ces deux choses qui semblent totalement incompatibles?
Oui, c'est compliqué. Alors d'habitude, je reprends chronologiquement, mais là, je vais commencer par la fin. Vous savez, le Hitler qu'on connaît en 45 ou aujourd'hui n'est pas nécessairement le Hitler qu'on connaît en 39. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a quand même l'Holocauste, plus de 6 millions de Juifs qui sont assassinés. Il y a effectivement la Seconde Guerre mondiale et des dizaines de millions de morts. Et puis voilà, on sait aujourd'hui ce qu'on ne savait pas en 39. Vous savez, les livres de Jean-Louis Crémieux-Brillac ont montré que la France continue à vendre des armes à l'Allemagne en 38 jusqu'à début 39. Donc, avec le recul, on peut dire, mais voilà, mais à quoi tu pensais? C'est absolument absurde, c'est un homme dangereux. Mais, et ça, je vais revenir à la jeunesse de Menzies, enfin, ses jeunes années en politique. Vous savez, Hitler est un personnage qui fascine dans la Grande-Bretagne des années 30, hein, la famille royale. Les parents, oncles et tantes de la reine Elisabeth, certains d'entre eux adoraient Hitler, mais d'autres l'admiraient. Donc, dans ces cercles d'élite que côtoyait Menzies une fois qu'il est devenu avocat et avocat reconnu, le nationalisme, le patriotisme, on a parlé de la politique de l'Australie blanche, tout ça quand même s'accumule. Il y a un parti nazi, hein, qui est formé en Australie dans les années 30. Donc, ce sont des idées qui circulent, qui sont absolument horribles et dangereuses, et on sait ce qu'on fait, pardon. Mais à cette époque-là, voir Hitler comme un grand leader, hein, on se souvient de la couverture du Time Magazine, il n'est pas le seul à avoir fait cette erreur-là. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est une erreur majeure, mais il n'est pas le seul à la faire. Je vais revenir un peu en arrière. Après l'université, il commence une carrière d'avocat. Il est doué, il est très doué, il s'est vite remarqué, couverture médiatique, voilà, ça tourne bien pour lui, si bien qu'en 28, 1928, il accède au Parlement du Victoria, il se fait élire, hein, en tant que député à ce Parlement d'État. Et il se fait remarquer. Et donc on lui demande de passer au niveau supérieur, au niveau fédéral. Et donc effectivement, vous l'avez rappelé, à partir de 34, il est dans la circonscription de Couillon qu'il va garder pendant très longtemps, enfin toute sa carrière en réalité. Et il commence la politique fédérale en soutenant des gouvernements de droite, le parti United Party Australia, et comment dirais-je, enfin, United Australia Party, qui est un parti d'union de quelques droites à l'époque, qui est très, très libéral, comme vous l'avez rappelé, libre entreprise, pas d'entrave, tant que ça de protection, le côté syndicat, ça leur plaît pas du tout. Enfin, voilà, la droite de l'époque, assez, traditionnelle. Et il monte les échelons assez rapidement parce qu'il devient quand même ministre de la Justice, ce qui n'est pas rien parce que c'est un poste assez complexe partout, mais en Australie en particulier, et où il faut généralement avoir une expertise. Vous avez rappelé que parfois pour être ministre de la Défense, il vaut mieux avoir combattu, encore que c'est pas toujours le cas. Pour généralement être ministre de la Justice en Australie, il vaut mieux avoir été un bon avocat bien connu. On l'a vu avec Dupond-Moretti il n'y a pas si longtemps en France. Et donc, effectivement, dans ces années où il est au gouvernement, il voyage. Il voyage et il va en Europe assez souvent. Il est très proche de la Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui est un fervent britannique, c'est-à-dire qu'il conçoit les Australiens comme britanniques, comme membres à part entière de l'Empire britannique et comme même étant britannique avant d'être australien. C'est extrêmement. Plus que fondateur, c'est l'axiome principal de sa politique et de son être en tant que personne, c'est d'être britannique et d'être fidèle à la couronne, au roi, puis à la reine à partir de 53. Et donc, quand il va en Allemagne, effectivement, il est assez impressionné. C'est quelqu'un qui a suivi quand même le décrochement de l'Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, pendant quelques années, l'Allemagne, c'est la grande puissance industrielle en 14. Hein. C'est devant la Grande-Bretagne, devant la France. C'est extrêmement impressionnant. C'est le grand pays. Et puis, effectivement, 1921, c'est la catastrophe. Puis, il y a une autre catastrophe qui est la crise de 29. Bon, entre-temps, il y a eu des belles années en Allemagne. Hein. 25, 26, 27, le nazisme n'était pas du tout prédestiné à prendre le pouvoir en Allemagne. Dire la Grande Guerre égale la Deuxième Guerre mondiale, c'est une absurdité monumentale. Pareil, l'économie de l'Allemagne n'était pas prédestinée à tomber dans les bras du nazisme. C'est un choix. C'est un choix. Les gens ont voté et ils ont choisi cette idéologie-là. Est-ce qu'ils se sont fait avoir? Est-ce qu'ils y ont cru? Ça, on pourrait en débattre. Le fait est que dans la moitié des années 30, une fois que Hitler arrive au pouvoir en janvier 33 en tant que chancelier, assez rapidement, il y a tout un tas de politiques, que ce soit industrielles, militaires, qui redorent le blason de l'Allemagne du point de vue international. Et Menzies fait partie de toutes ces personnes. On a eu des observateurs en France qui étaient aussi également très surpris du grand pas en avant de l'Allemagne, du rattrapement puis du dépassement. Donc voilà, c'est un contexte, c'est pas évident, mais enfin, on sait bien que son allégeance, et on va pouvoir en parler rapidement, n'est pas envers Berlin, mais réellement envers Londres.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va revenir dans quelques jours sur la suite de la carrière de Robert Menzies, s'intéresser plus précisément à son exercice du pouvoir, en particulier pendant les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite donc à nous retrouver d'ici quelques jours pour la suite de cet épisode consacré au Premier ministre australien resté le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire, Robert Menzies. Merci et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.